Bonsoir. Au moins 24 personnes sont mortes et une dizaine de blessées lors d'une série d'attaques armées des milices entre mercredi et samedi dans plusieurs villages de Chéperi dans le territoire de Djougou en Ituri entre mercredi et samedi dernier. Selon des sources locales et sécuritaires, il s'agit des représailles menées tour à tour par les groupes armés URDPC, CODECO et Zaïre. Des leaders communautaires et Maïlendou indiquent que ces nouveaux affrontements violent l'acte d'engagement que ces groupes armés ont signé à Arou le 1er juin 2023. Ces notables appellent ces miliciens à privilégier la cohésion pacifique et soutenir le processus de paix en cours. Quelle lecture faire de cette reprise des violences entre groupes armés dans la province de l'Ituri? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 12 septembre 2023. Participe au débat Gracien de Saint-Nicolas Irachan. Avec moi dans ce studio, il est député national, élu de la ville de Bounia en Ituri et cadre d'Ensemble pour la République, parti politique, membre de l'opposition, Gracien de Saint-Nicolas. Bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir tous les auditeurs de la radio Okapi.
Au téléphone, Paul Babangou, député national élu du territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. Il est secrétaire général adjoint de BUREC, parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Paul Babangou, bonsoir.
Bonsoir madame la journaliste.
Et le professeur Sobera Guenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Professeur Sobera Guenonga, bonsoir.
Bonsoir.
À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sur la 104.9. À l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net, sur DSTV, canal 867, sur Canal Plus, channel 572. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Au moins 24 personnes tuées dans une série d'attaques dans plusieurs villages du territoire de Djougou. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Selon les sources locales et sécuritaires, il s'agit des représailles menées tour à tour par les groupes armés URDPC, Bar, CODECO et Zaïre. Des leaders communautaires de la province de l'Ituri ont condamné dimanche dernier ces attaques armées entre ces deux groupes armés qui ont fait de nombreuses victimes parmi les civils. Quelle est la situation dans ces villages aujourd'hui après ces attaques? Martial Kizabiamungu et Guimaté nous en parle.
Bonsoir Martial Kizabiamungu.
Oui, bonsoir Guimaté.
Quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui dans les chefferies où les milices CODECO et Zaïre s'affrontent presque tous les jours et qui ont déjà causé la mort des 24 civils?
Écoute, Guimaté, la situation sécuritaire dans le chefferie de Mabendi, Badjere et secteur de Walindou, Djati est toujours volatile après la mort d'au moins 24 personnes, parmi lesquelles des femmes et enfants, au cours des attaques de représailles entre les groupes armés CODECO et Zaïre. Une psychose règne parmi les civils dans les villages de Kalangagbo et Ijiro, dans les groupements Moussaba, dans la chefferie de Mabendi, Damas et Lokomitio, dans le groupement de Gou, dans la chefferie de Bahema Badjere, ainsi que à Lona Londriga, sur la route nationale numéro 27. Selon des sources sécuritaires, une mobilisation de miliciens armés de la CODECO est observée depuis le matin de ce mardi au village de Bambou, Kobou, Bakodou, Petit, pour se concentrer vers Mbaou, avec comme objectif d'attaquer de nouveau Mbicho et Pito dans la région minière de Mungwalou, dans les territoires du Djougou.
Et comment réagissent les autorités provinciales pour mettre fin à ces affrontements?
Le porte-parole de l'armée à l'Ituri, que nous avons joint au téléphone ce mardi, précise qu'aucun groupe armé n'est censé protéger la population. Le lieutenant Gilles Ngongo indique que les forces armées doivent agir et contre-attaquer tous les réfractaires du processus de paix, quelle que soit leur signature d'acte d'engagement du 1er juin dernier à Arou. Il appelle la population de dénoncer partout où se cachent des hommes en armes pour aider l'armée à bien assurer la protection contre les exactions de miliciens.
Et quel est l'essor des populations? Sont-elles restées dans leur village ou elles ont fui pour s'abriter contre ces affrontements?
Oui, Guy Mathieu, ces attaques armées de représailles ont poussé plusieurs familles dans la rue. Selon plusieurs sources locales, certaines populations à majorité Emma ont fui vers Dala, Pilipili, Pito et d'autres majoritairement Lindou se sont déplacés vers Makofi. Ceux qui sont restés dans leurs villages respectifs vivent la paire au ventre. Pour terminer, Guy Mathieu, face à ces violences, des voix s'élèvent pour condamner de récentes attaques armées entre la Codeco et Zaïre. De leaders communautaires Emma et Lindou indiquent que ces nouvelles violences violent l'acte d'engagement que ces deux groupes armés ont signé à Arou. Ces notables appellent ces jeunes miliciens à privilégier la cohésion pacifique et à participer au processus de paix en cours. Guy Mathieu.
Merci Martial Kizabiamungu.
Merci beaucoup Guy Mathieu.
Merci Martial Kiza Biamungu depuis Bunia dans la province de l'Ituri. Gracien de Saint-Nicolas Irachand, vous êtes député national élu de la ville de Bunia en Ituri. Vous êtes cadre d'ensemble pour la République, c'est un parti politique de l'opposition. Reprise des hostilités entre deux groupes milices dans la province de l'Ituri. Comme je l'ai dit dans l'introduction, au moins 24 personnes ont été tuées entre mercredi et dimanche dernier, malgré les nombreux actes d'engagement signés par ces miliciens pour la cessation des hostilités dans la province. Aujourd'hui, on déplore encore des morts causées par ces miliciens. Comment vous expliquez cette situation?
En fait, je ne parlerai pas de reprise d'hostilité parce que...
À un moment, il y avait quand même une accalmie.
Non, les affrontements sont toujours permanents. Peut-être qu'il faut les dire à haute voix, on n'en parle pas, mais tous les jours, il y a des morts et des morts inventoriées à Ituri.
Il y a causé parfois, par ces miliciens.
Effectivement, ce sont des groupes armés qui sont actifs dans la province de Ituri. Il est vrai que quand les bilans s'alourdit, ou alors si on se retrouve face à des organisations humanitaires ou organisations des droits de l'homme ou toute autre organisation internationale qui dénonce, c'est alors qu'on pense qu'il y a à reprise d'affrontements, mais les affrontements sont toujours identifiés dans la province de Ituri avec toujours des morts. Et c'est vrai qu'il faut déplorer le fait qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement qui ne parle pas et qui ne rend pas à l'information accessible à tous les citoyens, parce que en dehors de ce que nous sommes en train de recenser comme bilan d'affrontement, il y a toujours des morts isolés par-ci par-là de tous les villageois qui vont chercher des nourritures au champ, ou alors de ceux-là qui voudraient se déplacer d'un millier à l'autre parce qu'il y a hostilité, ils attrapent toujours la mort. La situation, elle n'est pas facile, c'est qu'il faut le dire, parce que nous, on a tellement crié, on a tellement fait des initiatives parlementaires qu'aujourd'hui, on n'a pas de résultats. Et donc, pour nous, nous pensons toujours que c'est l'État congolais lui-même qui a sacrifié pratiquement la province. Et je parlerai même de toutes les deux provinces, et même jusqu'au site Kivu, où on ne voit pas franchement la volonté du gouvernement à pouvoir stopper les massacres.
Mais le gouvernement a initié des dialogues avec ces miliciens à plusieurs reprises. Ils ont montré leur bonne foi de pouvoir mettre fin aux hostilités, mais après ils violent leurs engagements. Est-ce la faute du gouvernement?
Ce qu'il faut dire avec précision, c'est la dissuasion qui n'existe pas dans notre gouvernement. Vous savez, quand vous vous retrouvez face à des forces négatives, ou toute personne qui a des armes, ou alors qui a une force d'attaque, il n'y a que la dissuasion ou les mécanismes des contraintes qui ne peut que les fiancer à abandonner les armes. Je voudrais dire quoi? Vous vous retrouvez face à des jeunes gens qui ont pris des armes, et qui sont libres d'opérer, ils sont libres de voler, ils sont libres de tuer, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, quelle est la part du gouvernement pour arrêter ces hostilités-là, ou arrêter ces gens qui sont en train de divaguer avec les armes? Donc il n'y a pas de mesure de dissuasion dans le sens où, quand vous sillonnez la province de l'Ituri, vous retrouvez pratiquement par exemple les territoires de Njugu, où il y a presque absence totale des éléments de l'ordre, je dirais, et la police et l'armée. Et donc la population est vouée à avoir des problèmes parce qu'il n'y a pas de secours immédiat
qui vient chaque fois que les populations sont en danger. Et quand vous voyez même, par exemple, aujourd'hui, la situation dans les territoires d'Irumu et même dans les territoires de Bambassa, où il y a eu aussi des hostilités ces derniers jours, vous comprendrez que la présence de l'État à travers l'armée, à travers la police, à travers l'appareil judiciaire, la présence là est inexistante, tout simplement. Donc, on se retrouve à plein jungle où les gens peuvent opérer comme ils veulent et il n'y a pas une réponse du gouvernement pour pouvoir stopper cette attaque-là. Et il n'y a pas aussi une réponse du gouvernement pour pouvoir sécuriser la population pour qu'il n'y ait pas de déplacement, mais aussi qu'il n'y ait pas de population civile qui soit livrée à elle-même à danger. Donc c'est une situation déplorable que nous sommes en train de dire. Nous avons pratiquement épuisé tous les mots, tous les verbes de dénonciation et même d'initiatives parlementaires qui nous permettent de remettre l'ordre dans la province de l'Ituri et même à l'est de la République. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus d'autres solutions. Et donc, nous disons tout simplement qu'on est abandonné. On est abandonné et qu'il n'y a pas d'autres solutions en dehors des élections qui pourront peut-être nous donner la solution.
Il y a eu des enquêtes parlementaires. Finalement, beaucoup de Congolais se posent la question de savoir qui arme ces groupes armés, qui les arme.
Non, il y a eu des rapports et des rapports où on sait d'où viennent les armes. Malheureusement,
ces armes viennent
d'où,
pour rappel, hein?
Non, je ne pourrais pas les donner avec précision. Vous savez qu'aujourd'hui, on est piégés, nous, de l'opposition. Il suffit de dire un mot qui ne plaît pas au gouvernement et on vient vous ramasser avec des procédures qui n'existent pas pour vous mettre au cachot ou alors vous mettre à détention.
Ces miliciens sont entretenus.
Mais posez-vous la question, ces miliciens existent, ils sont armés, mais ils ne passent pas hors frontières. Donc ça veut dire que les armes viennent de l'intérieur. Mais qui les approvisionne? Ce sont des enquêtes qui pourraient donner des solutions. Mais il y a eu des rapports. Moi, je parle même de la commission défense et sécurité qui avait fait une évaluation où il y a eu des suspicions sérieuses pour savoir d'où venaient les armes. Mais il n'y a pas parfois les problèmes chez nous au Congo. On n'approfondit pas les enquêtes ou on n'aboutit pas avec les enquêtes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui nécessite à ce qu'il y ait des initiatives parlementaires, des initiatives gouvernementales pour pouvoir donner des solutions. Mais il n'y a pas des initiatives pareilles. Parce que je voudrais le dire avec précision. Toutes les enquêtes parlementaires qui ont eu lieu, par exemple, à l'est de la République, même en Ituri, n'ont jamais été débattus à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu des initiatives du gouvernement pour pouvoir enquêter sur ce qui se passe, parce que jusque-là, on n'a que des rapports des ONG, des organisations internationales, mais il n'y a pas les rapports du gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit que les gouvernements, ou alors les institutions de la République, elles-mêmes ne s'intéressent pas à tout ce qui se passe comme massacre aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier aujourd'hui dans les contextes de l'Ituri, en Ituri. Et donc, il arrivera aujourd'hui à un moment où ces institutions devront en répondre. Parce que si on cherche aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, ou alors au gouvernement, vous ne trouverez pas un rapport qui démontre, par exemple, pourquoi ces groupes armés existent, d'où sont-ils venus et qui les approvisionne en armes. Il n'y a pas de rapport officiel du gouvernement. Et pourtant, ça devrait être une préoccupation sérieuse. Donc, on est face à un gouvernement provincial d'état de siège qui a complètement échoué. Ça ne vaut même pas la peine d'y revenir parce que toutes les résolutions l'ont démontré que ce gouvernement provincial a complètement échoué à sécuriser les citoyens. On se retrouve aujourd'hui face à un gouvernement national qui ne donne plus d'intérêt, qui n'attache pas d'importance à tout ce qui se passe à l'est de la République. Et merci. Donc, on est abandonné complètement.
Merci. De nombreux internautes nous écrivent de partout. On est en RDC, de l'Ituri, nous avons Alpha Kabona depuis Bounia, qui nous écrit depuis la province de l'Ituri, Mungu Jakisa Eri, qui nous suit aussi depuis l'Ituri, qui nous dit que la population iturienne souffre terriblement avec cette insécurité. Merci à Emile qui nous suit depuis Kinshasa. Innocent Bahati pense que le problème de l'Ituri, c'est le tribalisme qui règne encore. Vous allez y revenir peut-être dans le deuxième tour de table. On va donner la parole à Paul Babangou, qui est député national élu du territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. Vous êtes secrétaire général adjoint du BUREC, c'est un parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, Paul Babangou, vous, comment vous expliquez ces tueries causées par les miliciens?
Depuis d'abord, madame, nous présentons notre sage de compassion, de consternation et de condoléances aux familles victimes des actes barbares ces derniers temps dans les territoires de Ndjougou, précisément dans le pays de Baréma-Baféré.
On a un souci avec votre ligne téléphonique. Essayez de bouger pour voir si ça va s'améliorer.
Ouais. Madame, je pense que là, vous me captez très bien.
Un peu.
Madame, comprenez avec moi, je suis à Kamina, nous avons un petit souci des réseaux téléphoniques. Mais quand cela ne tient, madame, je disais, je présente les messages de consternation et de condoléances aux victimes des actes barbares et ignobles qui sont commis par les groupes armés dans les territoires de Ndjougou et précisément dans la chefferie de Bahema Badiere, de Walendu Mabendi et de Walendu Dati. Il est quand même à signaler, madame, ces actes macabres et nobles que commettent les groupes armés dans la province de l'Ituri. Ça a des vestiges depuis les années 2003, parce que lors des DPRC, cette commission nationale était organisée pour que les groupes armés et différentes
Votre ligne n'est pas très bonne, Paul Babangou. La réalisation va essayer de vous rappeler. Professeur Chobert Aguenonga, professeur à l'université de Kisangani, vous êtes spécialiste dans le domaine des études des sécurités, des géopolitiques et des sociologies militaires. Professeur, on a eu à organiser plusieurs débats, émission avec vous ici, sur la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Vous avez proposé plusieurs fois des pistes de solutions pour mettre fin à cette insécurité. Malgré tout ça, professeur, aujourd'hui encore, on revient sur cette question d'insécurité dans cette province. Qu'est-ce qui se passe finalement en Ituri?
Merci beaucoup pour la parole. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais en préciser une chose. Contrairement à ce que votre correspondant a dit tout à l'heure, le Zaïre n'a jamais été partie prenante à l'accord de Arou. C'était plutôt un autre groupe armé qui s'appelle MAPI. Et cela étant, alors pourquoi est-ce qu'on assiste à la persistance des violences en Ituri? Évidemment, il y a plusieurs facteurs qu'il faudrait souligner, mais ce qui me paraît aujourd'hui important de mettre en exergue, c'est le fait que plusieurs positions militaires ont été dégarnies dans le territoire de Ndjougou pour aller renforcer les unités des FADC qui sont en train de faire face au M23. En conséquence, quand vous allez dans certaines chefferies, par exemple chez les Walendu Piti dans le territoire de Ndjougou, eh bien, vous allez constater que pratiquement toute la chefferie est totalement contrôlée par les miliciens en déco-déco. Donc, voilà. Mais cela vient s'ajouter déjà à un problème de la déficience d'effectifs qui était signalé antérieurement. Mais alors, je pense que cette question devient de plus en plus structurelle, quand bien même on a tendance parfois à l'aborder de manière, je dirais, conjoncturelle. Eh bien, ce qu'il faudrait dire aujourd'hui, je pense que ce qui aggrave la situation sécuritaire, la menace sécuritaire en Ituri, c'est d'abord, premièrement, le fait que les militaires qui sont en Ituri sont dépourvus pratiquement de moyens. Le moyen logistique font défaut, ils sont très déficients. Il y a aussi la prise en charge qui fait défaut, mais à cela, je voudrais aussi souligner l'indiscipline totale qui caractérise le militaire dans la province de l'Ituri. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler ici que par plusieurs reprises, on a assisté à des meurtres de civils qui ont été perpétrés par des militaires. Mais à cela, je voudrais aussi rappeler le fait que plusieurs militaires ont été arrêtés parce qu'ils étaient impliqués dans le trafic des dans le transfert, je dirais, de munitions vis-à-vis de miliciens, ça fait partie effectivement des variables qu'il faudrait mettre en exergue. Mais je voudrais ajouter un autre point, le dysfonctionnement total du PDRCS. Vous savez que c'est depuis le mois d'avril dernier que le PDRCS a lancé le programme du désarmement, mais ça aura été l'occasion de constater qu'effectivement ce programme n'a pas non plus été planifié, parce que quand vous allez sur les sites, vous allez constater d'abord premièrement la prise en charge des quelques entre guillemets démobilisés qui sont là, fait déjà défaut, il y a un problème d'infrastructure, le PDRCS est en train de naviguer à vue, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas un plan opérationnel, etc. Alors que le PDRCS devrait contribuer tant bien que mal à la réduction des armes qui sont aux mains de miliciens, ce qui n'a pas pu être fait. Mais enfin, je vais aussi souligner la question liée effectivement à l'impunité. Alors donc, l'impunité tient au fait que tous les criminels qui tuent en Ituri, ils n'ont jamais été dissuadés, ils n'ont jamais été réprimés. Il vous souviendra que sur base d'un simple chantage de Codeco, tous ces combattants qui étaient arrêtés pourtant pour de graves crimes et détenus dans la prison centrale de Bounia ont été libérés simplement parce que Codeco menaçait d'attaquer la ville de Bounia si ces combattants qui étaient détenus n'étaient pas libérés.
Alors, professeur Chaubert Aguenonga, vous parlez des moyens logistiques qui font défaut. Est-ce que ces miliciens sont plus armés que ou mieux armés que nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité?
Alors, le moyen logistique ne se résume pas seulement en termes d'armes, en termes de la mobilité, voyez-vous. Donc, pour mener la guerre, effectivement, il faut avoir des moyens de mobilité pour une meilleure projection des troupes. Et vous savez, quand vous allez sur le terrain, en Djougou, par exemple, les militaires n'ont pas de véhicules, envie de se déplacer. Vous savez, le gouvernement avait mis à la disposition de la province de l'Ituri des avions militaires qui n'ont jamais volé. Jusqu'à aujourd'hui, ces avions n'ont jamais volé, ne serait-ce que pour dissuader les rebelles. Ça n'a jamais, ces avions n'ont jamais volé. Et à cela, je voudrais ajouter également la faible prise en charge des militaires. Je vous disais tantôt que les militaires font partie de l'insécurité. Vous savez qu'il y a beaucoup de barrières qui sont érigées par des militaires. Et sur ces barrières, les militaires rassemblent la population au même titre que le milicien. Simplement parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Il y a beaucoup de militaires qui se plaignent du fait que depuis plusieurs jours, ils sont en rupture, n'est-ce pas, des rations alimentaires. Et enfin, c'est un autre élément que je voudrais souligner, c'est quand même important. Vous savez, tous les bataillons, les compagnies qui sont présentées en Ituri, par exemple, sont en déficit d'effectifs. On vous présente un bataillon. Un bataillon, c'est trois compagnies, c'est-à-dire plus de 300 militaires. Mais vous allez constater que sur le terrain, les effectifs d'un bataillon, c'est moins que c'est d'un bataillon. Et parfois, ce sont les effectifs d'une compagnie. Il a un même d'une compagnie, vous allez constater que 50 militaires forment une compagnie. C'est qu'il y a une entorse, voyez-vous, donc.
On ne vous suit plus, professeur. Est-ce que vous êtes là, professeur? Je crois qu'on a perdu, la réalisation me signale, entre-temps que Paul Babangou est de retour. Est-ce que vous nous suivez, Paul Babangou?
Oh, je capte... 565, madame.
Voilà, allez-y, ça s'est amélioré. Vous avez la parole.
Ouais. De prime abord, madame, nous présentons notre message de compassion, de condoléances vis-à-vis de la population victime des actes ignobles et macabres ces derniers temps dans les territoires de Ndjougou. Il s'agit principalement des actes qui ont été perpétrés, des massacres dans la chefferie de Baye Mabadiere, de Walem Dzati et de Mabendi. Madame la journaliste, ce qui fait, c'est qu'il y a le cercle infernal d'insécurité de l'Ituri depuis les années 2000 à 2003. C'est parce que nous, Ituriens, nous traitons beaucoup entre nous par hypocrisie. Aujourd'hui, les miliciens qui sont en Ituri, qui sont à l'origine de ces actes odieux, d'ailleurs qui violent les droits internationaux publics, qui violent l'esprit et la lettre de l'article 5 du traité de Rome, qui les consacre à des crimes imprescriptibles, nous-mêmes aussi, VTI, une communauté de l'Ituri, nous sommes responsables.
d'autant plus que nous n'organisons pas de vrais dialogues intercommunautaires et avec sincérité vis-à-vis de certains membres des groupes armés qui remontent des différentes vétérines communautés. J'allais dire, madame, bien sûr, les communautés ne sont pas à l'origine d'organisation, de création des groupes armés, mais quand même, ils ont déligné dans certaines des communautés de l'Ituri. Alors, j'en appelle tous les Ituriens à l'unité et à la sincérité dans des dialogues. Cela permettrait à ce que les groupes armés puissent être éradiqués par des moyens pacifiques. Parce que nulle part au monde, aucune armée n'a su imposer la paix uniquement par les voies des armes ou bien par sa machine de guerre. Parce qu'au finish, après tout ça, on revient toujours pour des dialogues, pour essayer de pallier ou bien de trouver des solutions aux effets collatéraux qu'a engendré les opérations militaires.
Mais il y a eu beaucoup de dialogues organisés, Paul Babangou, plusieurs dialogues organisés, mais il n'y a toujours pas de solution. On n'arrive pas toujours à mettre fin à cette insécurité dans la province de l'Ituri. Peut-être, comme vous le dites, il y a beaucoup d'hypocrisie entre vous, Ituriens, mais à part le dialogue, comment peut-on en finir avec cette histoire des miliciens dans cette province?
L'hypothèse de la province de l'Ituri, madame la journaliste, les rôles de protéger la population et ses biens relèvent des pouvoirs discrétionnaires de l'État. Bien sûr, l'État congolais a organisé plusieurs dialogues à l'Ituri. Nous pouvons demander, madame la journaliste, que l'État congolais puisse sanctionner sévèrement tous les réfractaires au processus de paix qu'il a toujours engagé. Et le même gouvernement doit respecter scrupuleusement les engagements ou bien les résolutions auxquelles il participe d'une manière ou d'une autre dans différents dialogues, dans différents actes de paix. Nous avons vu, par exemple, madame, vous êtes pas ignorée, le 28 février 2019, l'État congolais a signé un accord de paix avec la milice FRPI, dont, jusqu'à preuve du contraire, les clauses ou bien certaines des revendications contenues dans cet accord n'ont jamais été respectées, madame. Et de plus fortes raisons, l'État congolais et la bonne foi des chefs de l'État devaient amener la paix à Ituri. Il a même nommé les animateurs de pour la police d'État à travers plein de CS. Mais vous êtes sans ignorer même les fonds destinés pour les cantonnements des miliciens qui ont été de bonne foi pour déposer les armes et adhérer au processus de paix ont été détournés. Et aujourd'hui, ils se trouvent devant la justice. Deuxième problème aussi, c'est le problème de détournement des fonds publics qui est parmi les fléaux qui risquent un jour même d'enflammer le pays. Alors, cette hypothèse, madame, j'aimerais bien seulement à ne faire Ituriens, moi comme élu de cette province, nous tous et tous les groupes armés doivent s'activer dans ces processus de paix. Par exemple, les groupes armés FRPI, FPIC, nous avons les groupes armés MAPI, sont signataires de plusieurs accords de paix et actes d'engagement avec l'État congolais. Mais vous êtes sans ignorer, il y a un groupe armé qui s'appelle Zaïre, d'ailleurs dont les notables sont fustigés. Mais ce groupe armé n'a jamais signé un acte de paix, n'adhère jamais au processus de paix, au motif qu'ils sont des victimes et ils sont autodéfense. Mais lorsque nous arrivons sur le terrain, nous découvrons d'autres matières. Par exemple, ce groupe armé doit aussi coopérer avec l'État congolais dans l'impératif de donner la paix dans la province de l'Ituri.
Mais qui sont derrière ces groupes armés?
Bon, ces groupes armés, il y a différents rapports que les Nations Unies et d'autres organisations internationales, ils ont fourni même à l'État congolais pour décrire que les Zaïre constituaient un mal, d'autant plus qu'ils ne participent pas dans les processus de paix. Il y a plusieurs rapports, madame, qui décrivent Zaïre comme groupe armé. C'est par exemple de telles hypothèses, parce que Zaïre s'est dit qu'elle est victime. C'est un danger déjà, madame.
Il n'y a pas que le Zaïre comme groupe armé, il y a Codeco, il y a RPC, il y a FPIC. Mais qui soutiennent ces groupes armés finalement? Qui les arme? Qui sont derrière ces gens?
Bon, madame, comme mon prédécesseur, qui est mon collègue, l'honorable Yarachan, venait de fournir quelques éléments de réponse, moi je vais vous dire, les armes qui entretiennent les milices sont de dénature. Par exemple, lors des opérations des gangs à Verdier, placées déjà en 2014 dans la province du Nord Kivu, l'État congolais avait fourni plusieurs armes dans les territoires de Beni et dans la province du Nord Kivu et les équipements militaires. Tout à fait, du contraire, on n'a jamais, bien sûr, nous avions demandé à travers notre caucus du parlementaire qu'on puisse inventorier les armes et d'autres équipements militaires. Vous êtes sans ignorer les tenues qu'ils portent. Ces miliciens, ce sont des tenues neuves qui proviennent directement, même uniforme que les FARDC. Nous ne pouvons pas dire que ces tenues proviendraient soit des pays voisins. Alors la responsabilité est partagée et la porosité aussi de nos frontières entre la province de l'Ituri et l'Ouganda, les Sud-Soudan. Mais ce qui est vrai, madame, beaucoup d'enquêtes ont prouvé à suffisance qu'il y avait certains Congolais de mauvaise foi qui coopéraient ou bien qui collaboraient avec les groupes armés. C'est pourquoi vous allez voir les armes des générations récentes qu'on vient de donner, qu'on doter l'armée, et du coup vous travaillez, vous trouvez des super mitrailleuses pilulées dans les mains de groupes armés par-ci par-là. Mais ce que je les demande, je ne condamne aucun groupe armé, je ne soutiens aucun groupe armé, parce que le groupe armé c'est déjà un mal. Parce que lorsque vous lisez la Constitution à ses articles 167, vous allez découvrir que ce sont seuls les membres des forces armées et de la police ont l'amabilité d'utiliser les armes parce qu'ils sont formés catassés. Et à plus forte raison, c'est que commettre le crime odieux, ça viole même l'article 16 de notre Constitution, c'est la sacralité de la vie humaine. Alors les groupes armés, ce que nous pouvons les demander, il n'y a pas un bon groupe armé. Et ces groupes armés doivent tous déposer les armes et emboîter les processus de la paix. Et en matière de la paix, de la sécurité, dans la province de l'Ituri, il n'y a ni ange ni démon. Si nous mettons ça dans notre tête, nous pouvons faire à ce que la paix revienne par voie de dialogue sincère, jetant nos hypocrisies ailleurs.
Bien suivi, Paul Babangou, merci. Alvaro Hernandez qui nous suit depuis le Maroc, Monsieur Niati depuis l'Angola, depuis Luanda, merci beaucoup à tous ces auditeurs qui sont à Goma, à Fungurume, à Kiasumbalesa. Vous êtes très nombreux et nous vous remercions. On va ouvrir à présent notre standard pour prendre ces autres auditeurs qui appellent sur le téléphone fixe, qui veulent aussi donner leur point de vue, leurs avis sur la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. On va commencer par Benjamin Melingo depuis Kisangani. Ça sera pour vous, honorable Irachan.
Benjamin Melima Melingo, je vous appelle à partir de Kisangani dans la province de la Tchopo. La recrudescence de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays est le fruit de l'incapacité de l'État congolais à pouvoir imposer la paix sur l'ensemble du territoire national. Si nous avions un État détenant le vrai monopole de la puissance publique, nous n'allions pas connaître ce genre d'aventure. L'avènement de l'État de siège était considéré comme une panacée pour redonner espoir au peuple itourien et kivoussien. Mais hélas, il est venu amplifier la situation sécuritaire devenant ainsi de l'éther. L'État doit utiliser son rétroviseur pour consulter ses prérogatives constitutionnelles afin que la population recouvre le sourire longtemps perdu par des atrocités interminables.
Réaction.
Je salue cet auditeur, c'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'évidemment, on a pensé que la dernière solution, ça c'est ce que les pouvoirs en place a pensé, que c'était l'état de siège pour pouvoir imposer la paix, mais malheureusement l'état de siège n'a pas donné une solution face à ce qui s'est passé, parce qu'avec l'état de siège, on ne devait plus parler pour parler ou des dialogues, mais il fallait imposer d'abord la paix et après, prêt alors engagé de pourparler après avoir neutralisé tous les groupes armés. Donc l'auditeur a pratiquement raison pour dire qu'aujourd'hui l'état de siège a complètement échoué et que ce qui se passe c'est effectivement l'erreur ou l'incapacité du gouvernement congolais. Ça il faut l'admettre comme tel. Nous l'avons toujours dit que quand vous avez un état qui est défaillant, la conséquence c'est la population qui en souffre. Et donc c'est démontré aujourd'hui, quand vous allez à Ituri, tous les 5 territoires et la ville de Bunia ne sont plus sécurisés. Il y a des kidnappings partout. Tout à l'heure, là on venait de m'appeler, par exemple à Bunia, il y a un DG de l'ISPCK20 qui est porté disparu. À pleine ville, il est porté disparu. Vous vous imaginez des causes comme ça et ça fait 3 jours, on les cherche, on ne sait pas les retrouver. Vous allez dans les territoires de Magui, on venait de prendre en otage 12 ou 13 personnes dans la chefferie de Mukambo, tout simplement parce qu'il y a un élément d'un groupe armé qui a été arrêté par les forces régulières. Et voici la loi où on prend des personnes en otage, exigeant à ce qu'on puisse libérer cette personne des groupes armés.
Donc, ce sont les groupes armés qui font la loi.
Donc, c'est ce que je disais. Quand vous avez un pays où l'État, où les pouvoirs en place n'est plus à mesure d'assurer la situation, la protection de la population, on en arrive à tout ce qui est comme désordre aujourd'hui. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre en Ituri, où l'État ne sait plus sécuriser la population, mais surtout l'appareil de l'État constitué de l'armée, la police, l'appareil judiciaire et des autres organisations comme administration étatique n'existe presque pas. Et donc vous devez passer des dizaines et des centaines de kilomètres, parfois vous ne rencontrez pas les militaires. Donc la population est exposée et ça laisse place à des groupes armés. Là où on a tué par exemple Vermidjo chez les Mabendi, c'est plus pratiquement, vous pouvez sillonner dans les 50 à 70 kilomètres, il n'y a pas de militaires gouvernementaux. Donc vous ne pouvez pas, il n'y a pas donc de militaires gouvernementaux, vous ne pouvez pas espérer être protégé quand vous n'avez ni la police ni l'armée dans une portion qui va au-delà de 70
kilomètres. Mais est-ce que ce n'est pas vous-même, Ituvien, qui êtes à la base de cette situation?
Non,
vous avez suivi
argument,
Paul Babangu qui parle d'hypocrisie.
Cet argument n'est pas... Toutes les tribus du Congo ont des faiblesses, ont des points faibles. Ça ne veut pas dire parce que peut-être on n'a pas eu des discussions franches que cela pourrait nous dire, nous signifier qu'il faut être livré à la présence ou à la merci des groupes armés. Non. Parce que normalement, quand l'État fonctionne normalement, correctement, quand quelqu'un tue ou quand quelqu'un va voler chez l'autre, on le prend, on le défère devant les juridictions et puis on va les juger. Et là, on l'arrête, on les condamne et personne ne va encore revenir sur ça. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui peuvent voler, qui peuvent tuer, mais on les laisse circuler. Le problème, c'est le fonctionnement de l'État congolais qui pose problème jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes livrés à nous-mêmes.
Professeur Chaubert Aguelunga, on va se rendre à Bukavu à vous pour écouter cet autre auditeur qui appelle.
Sikiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud-Kivu. De prime abord, je présente mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu le leur dans cette barbarie humaine qui ne dit pas son nom. Cette reprise des violences entre les groupes armés dans la province de l'Ituri s'explique par l'absence de l'État. Je me demande, faut-il combien de temps pour que la RDC s'affirme comme un État? À mon avis, l'appel des notables demandant aux miliciens à privilégier la cohésion pacifique et de soutenir le processus de paix est une distraction, voire même une insulte pour les victimes. La paix ne viendra jamais du carotte, car ce n'est pas la première fois. Pour que la paix règne à l'est de la République démocratique du Congo, l'État congolais doit s'assumer. Dans les cas contraires, nous aurons nos yeux pour pleurer. Je me demande à quoi sert encore cette farce appelé état de siège si les Congolais doivent continuer à mourir comme des mouches. Qu'avons-nous fait du mal pour mériter ceci? C'est regrettable pour nous, un peuple sacrifié.
Alors je vais ajouter cette réaction de Hippocrate Maroumé qui pense qu'il revient à l'état congolais à travers l'armée d'imposer la paix et non les tierces. Professeur Aguelunga.
Oui. Il faut très clairement le reconnaître, effectivement, c'est la faiblesse de l'autorité de l'État qui a laissé libre cours à tous ces criminels, à tous ces bandits des grands chemins
en Ituri. Je l'ai dit tantôt, lorsque vous allez dans les territoires de Djougou, force est de constater que effectivement il y a des pans entiers des territoires qui ne sont pas contrôlés, qui sont totalement aux mains de services de sécurité, qui sont totalement aux mains de groupes armés, vous l'ai dit, et les militaires, faute de moyens, certainement aussi la déficience des effectifs, ne sont pas à mesure effectivement d'imposer la pétop en beaucoup les suggèrent, mais contrairement à ce que l'auditeur était en train de dire tout à l'heure, il faut lever l'état de siège. À mon humble avis, lever ou maintenir l'état de siège, ça ne va rien apporter comme solution, parce que l'approche qu'on doit envisager pour mettre un terme à l'insécurité ou aux violences en Ituri doit plutôt tenir compte des racines des violences. Comme je l'ai dit tantôt, la racine des violences, nous avons les dysfonctionnements des services de sécurité, à tel point que eux-mêmes sont devenus une des causes de l'insécurité en Ituri. Et en plus de ça, il y a aussi l'impunité totale. Les groupes armés n'ont jamais été réprimés. Du coup, ils pensent que tout leur est permis. Ils peuvent tuer, ils peuvent voler, ils peuvent faire tout ce qui leur passe par la tête. Et j'ajoutais également le fait que c'est le retard qu'on a pris dans le processus PDFC qui devrait effectivement contribuer au désarmement des groupes armés. Malheureusement, le PDFC est aussi en train de battre de l'aile. Il n'est pas à mesure effectivement de contribuer au désarmement des groupes armés. Donc voilà autant d'éléments qu'il faudrait souligner pour permettre une meilleure compréhension de ces dynamiques.
Romain, depuis l'Italie, dans la région d'Abruzzo, pense que l'insécurité dans la partie est du pays est due à la faiblesse du gouvernement et groupes ethniques qui se trouvent dans la partie est et attendent les politiciens et leurs membres ethniques qui sont peut-être complices. Il faut que la population et l'armée régulière soient unies et le gouvernement doit fournir à l'armée tout le matériel pour sécuriser la population. Maxime pense que c'est vraiment intéressant comme motivation de la part de l'honorable Paul, invitant chaque personne à prendre conscience pour imposer une paix voulue dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Lumbu Ali Massi, qui nous suit depuis la ville de Mansa, voilà, dans la province de Luapula, en Zambie. Merci beaucoup de savoir que nous sommes suivis partout et même en dehors de notre pays. Honorable Paul Babangou, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction de Kinshasa.
Farel Malassa, depuis Kinshasa. Les groupes armés ne respecteront jamais l'acte d'engagement signé le 1er juin 2023 tant que leurs indications ne seront pas prises en charge par le gouvernement. Pour que ces derniers puissent privilégier la cohésion pacifique et soutenir les processus de paix en cours, il faut une renégociation approfondie et intelligente avec ces derniers pour arriver à une paix durable et souhaitée par tous.
Paul Babangou, réaction.
Madame la journaliste, l'auditeur a parfaitement raison. Lorsque vous lisez, par exemple, dans les techniques de résolution des conflits entre les tribus, dans le cas, par exemple, de la province de l'Ituri, le professeur Kalunga Mawazo de l'université de Lubumbashi, professeur et sociologue, il a démontré clairement que dans l'hypothèse où l'Ituri se trouve actuellement, rien. Même si l'État utilisait son pouvoir régalien de coercition, qui est le pouvoir de fouet, parce que certains d'entre nous refusent à ce qui est dialogue franc et sincère, considérant comme si c'était des carottes vis-à-vis de ces groupes armés. Je vous dis non, madame, à l'heure actuelle, l'Ituri, il y a des cas jurisprudentiels. Vous vous souviendrez avec moi, dans les années 99 à 2003, lorsqu'il y avait des hostilités graves et à des grandes échelles dans la province de l'Ituri, les notables de la province de l'Ituri ont appelé les Nations Unies et la République démocratique du Congo à organiser le dialogue entre Ituriens. Et on avait créé les structures appelées CPI, Commission de pacification de l'Ituri. À travers cette commission de pacification de l'Ituri, parce que pendant ce temps, bien sûr que les gens n'ont pas dédouané leur cœur de l'hypocrisie à 100%, on a observé
la calmie de la province de l'Ituri pendant 20 ans durant. Madame la journaliste, je ne peux pas dire, comme aussi un député de la majorité, que l'État congolais ne puisse pas attaquer ces miliciens qui sont en train de massacrer leurs frères, qui sont en train de mettre à plat cette province riche. Alors, aux côtés des actions, des machines de guerre du gouvernement congolais, le processus de dialogue entre différentes communautés, et chaque communauté séparée des vrais serments entre frères, et laisser le tribalisme, et certaines personnes recourent même à la victimisation. Ils se rendent victimes, ils ne comprennent pas les actes ignobles et macabres qu'ils commettent eux-mêmes avant de poter les autres. En Ituri, nous demandons à tout le monde, avant de poter quelqu'un, il faut d'abord enlever des poutres qui se trouvent dans votre œil. Là, je pense, l'Ituri trouvera sa paix à travers les deux parallélismes, c'est-à-dire d'une part les carottes et l'autre part la coercition de l'État, parce que c'est son rôle régalien d'éradiquer tout groupe rebelle subversif et même de participation à des mouvements insurrectionnels, madame la journaliste.
Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons vous demander de pouvoir conclure. Avant cela, je vais lire quelques réactions des internautes. Jean-Bien Banga qui dit ceci, l'imposition de la paix par la force armée de la RDC a montré ses limites. Les dialogues en elles seules ne peuvent pas ramener la paix aussi longtemps que les groupes armés ne sont pas désarmés. La meilleure solution, c'est de tout mettre en œuvre pour le désarmement de tous ces groupes armés, suivi d'occupation des espaces laissés par ces derniers, par une armée professionnelle, et ensuite procéder au dialogue sincère entre les communautés des l'Ituri. Jean-Bien nous écrit depuis Bounia. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul Babangou? Et puis, nous allons en profiter pour conclure.
Bon, madame la journaliste, directement pour conclure, de ma part, les actes que commettent les groupes armés en Ituri, ces actes odieux, ne resteront jamais impunis. D'autant plus que ça viole même les jus cogens, c'est-à-dire la paix collective pour lesquelles les Nations Unies sont nées. Et les responsables de tous ces actes seront un jour poursuivis. À plus de ça, madame la journaliste, je demande, comme un élu de ces terroirs, j'appelle les Itouriens à l'unité. J'appelle les Itouriens à continuer toujours les dialogues comme dans leurs vices et coutumes, et de bannir l'esprit de l'hypocrisie, et comme je l'ai dit, que le gouvernement congolais doit respecter en amont aussi sa responsabilité dans les différents accords de paix et actes unilatéral de paix signés en Ituri des groupes armés, et accélérer le processus de désarmement vis-à-vis de ces miliciens, les cartonnés. Je pense que nous allons voir la paix revenir dans notre chère province.
Alors, une dernière question très rapidement, c'est un internaute qui demande, mais où sont les militaires pendant que ces groupes armés opèrent? Paul Babamgou.
Bon, madame la journaliste, vous savez, le commandant suprême des forces armées a montré et toujours de bonne foi. Nous avions demandé, les Ituriens ont demandé à ce qu'on puisse amener l'état de siège qui les mesures exceptionnelles de gouvernance, le chef de l'État a placé cette organisation aujourd'hui décriée. La population de l'Ituri, à travers un certain de leaders communautaires et politiques, ont demandé à ce qu'il y ait mutualisation des forces pour éradiquer, entre autres, l'ADF Nalu et l'air supplétif, les Hutus rwandais, dans les territoires du Rumu et d'autres territoires de la province de l'Ituri, le chef de l'État a procédé si vite. Alors, actuellement, ce que nous pouvons mettre dans notre tête pour que la paix revienne en Ituri, celle, notre armée ne sera pas à même de le faire à 100%. Ça, pourtant, nous puissions mettre l'armée à la patte.
Merci, Paul Babangou, député national élu du territoire du Rumu dans la province de l'Ituri, secrétaire général adjoint du BUREC, parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, professeur Chobera Guenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Je ne sais même pas, professeur, si je dois vous demander encore, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour mettre fin à cette situation d'insécurité? Vous avez déjà fait plusieurs propositions, mais je vous repose quand même la question. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour mettre fin à cette situation.
Oui, justement, je voulais dire que le dialogue comme piste de solution, pour moi, ça me paraît un déphasage en complet, parce que ne peuvent dialoguer que des personnes qui sont en conflit. Il ne faut pas demander aux communautés ituriennes de dialoguer entre elles, dès lors qu'il est très clairement connu qu'aucune communauté n'est en guerre contre une autre communauté. Par contre, le problème, c'est qu'il y a des groupes armés qui sont membres de certaines communautés qui sont à la base de la sécurité en Ituri. Je pense que la première piste de solution, et ce qui est urgent, c'est la montée en puissance de l'armée. Je pense que lorsqu'il y aura montée en puissance de l'armée, ça va dissuader, ça va décourager toutes ces bandes criminelles et subversives qui sévissent en Ituri. Mais par ailleurs, il faut aussi accorder une place majeure, je pense, à la justice. Parce que c'est depuis très longtemps que l'on tue en Ituri, et puis tous les criminels sont en train de circuler paisiblement, ils ne sont pas inquiétés. Je pense qu'ils doivent aussi être réprimés très sévèrement. Et je vais terminer aussi par le processus PDRCS qui est en train de piétiner. C'était, je pense, un plan stratégique de paix pour la province de l'Ituri et pour d'autres provinces qui sont en proie à des violences. Malheureusement, il y a un dysfonctionnement total. Il faudrait repenser ce programme-là et surtout il faut que le programme puisse se doter de ce que nous appelons un plan opérationnel. Il y a aussi les bailleurs de fonds qui n'ont pas confiance aux animateurs actuels du PDSS, et il faut redorer ce blason terminé. Et enfin, pour terminer, il y a aussi il n'y a presque pas une approche civilo-militaire. Il n'y a pas une bonne relation civilo-militaire. Donc, il faudrait qu'il y ait une très bonne approche civilo-militaire qui remette la confiance entre l'armée et les civils. Et cette approche doit aussi impliquer la mise en place de ce que nous appelons le mécanisme d'alerte précoce et, bien entendu, aussi une sécurité de proximité.
Merci. Professeur Romain dit ceci: j'ai jamais compris pourquoi le gouvernement cherche toujours à négocier avec les rebelles. Il faut que le gouvernement impose la paix et laisser les négociations qui n'apportent pas des solutions. Jafet Tamboué pense aussi que l'État doit imposer la paix. Ensuite, le dialogue s'en suivra. Gustave Timbao, depuis Kananga, merci aussi de nous avoir écrit, Patrice Moudéroy. Le dialogue avec les groupes armés a montré ses limites. Voilà, merci à l'Imassi, John Ogombe qui nous suit depuis le Maniema. Graciane Saint-Nicolas, votre conclusion.
Il faut reconnaître que les Ituriens n'ont jamais demandé l'état de siège. Je voudrais vraiment contredire mon collègue. L'état de siège, c'est un arrangement de l'union sacrée, et donc c'est leur politique, ça n'engage pas la communauté ituriennes. Je voudrais aussi qu'on puisse dissocier les groupes armés et les communautés, comme l'a dit le prof Jobert, parce qu'il y a des gens qui pensent que tel groupe est lié à tel groupe de communautaires. Il faut dissocier. On a un groupe de gens aujourd'hui qui opèrent et ils savent les raisons pour lesquelles ils sont en train de faire. Ça n'a aucun engagement direct avec les différentes communautés, même si on veut les coller. C'est comme ça les dialogues effectivement ne fonctionnent pas. Et aussi, il faut dire que quand mon collègue parle de l'hypocrisie, c'est quelle hypocrisie? Parce que je ne pense pas qu'on va toujours cacher des choses. On ne peut pas chercher à ce que les gens disent des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas d'hypocrisie, mais en fait, c'est parce que justement, il n'y a rien à dire que les Ituriens ne savent pas comment dialoguer. Vous n'allez pas dialoguer sur base de rien. En fait, il n'y a rien à dire. Ce qui se passe est que nous avons un État, un pouvoir à place qui est incapable de sécuriser la population et qui laisse à ce que les bandes armées circulent. Un État aujourd'hui qui de ces bandes armées pour pouvoir continuer avec ses intérêts que l'on ne sait pas, qu'il faut définir. Est-ce que c'est électoral? On ne sait pas, parce qu'on connaît comment les groupes armés sont à Paris, ont réapparu en Ituri. Et il faut dire encore que l'État a échoué à travers sa politique de l'état de siège et qu'il faut lever l'état de siège pour qu'il y ait un commandant chargé des opérations qui s'occupe uniquement des opérations et qui ne puisse plus s'occuper de l'administration, parce qu'on a un gouverneur militaire qui pense plus travailler dans l'administration et dans les secteurs de développement, et pourtant il est parti, il est envoyé en Ituri pour imposer la paix paix, finir la guerre. Donc il faut revenir à ce système parce que le système état de siège n'a pas marché. Et je vais terminer par dire que la solution durable à ce qui se passe dans la province de l'Ituri, mais surtout dans tout l'Est, c'est le changement de la gouvernance. Il faut passer par les élections et avoir un pouvoir qui va s'assumer parce que le pouvoir actuel a complètement échoué.
Merci, Gracien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de la ville de Bounia et cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition, Léon Kajingoulou depuis Kassoumbalessa. Merci beaucoup. Merci aussi à Trésor Mirandier. Merci pour de nous avoir suivis sur le live Facebook Radio Okapi. Merci également à toute la grande équipe qui m'a accompagné dans la présentation et la préparation de cette émission. Guimaté Donamadimba, Jonathan Fouanani, Clément Chimanga, Charlie, voilà, merci. Présentation et coordination, Charlie Louyeye, le nom est revenu, merci beaucoup. Présentation et coordination, Kéline Couté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.